Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de cette édition d'information, le gouvernement congolais réaffirme son engagement de rembourser les manques à gagner aux pétroliers pour pérenniser la baisse du prix des carburants. C'était lors des entretiens hier jeudi entre le ministre de l'Économie nationale et les opérateurs économiques du secteur pétrolier. Installation hier jeudi des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. L'UDPS occupe la présidence des quatre commissions et du Conseil des sages sur les 10 commissions existantes. D'autres détails dans ce journal. L'invité de ce midi est le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Josia Obat, qui a effectué une mission de visite mardi dernier dans les territoires du Rumu, a rencontré différentes couches sociales de la région. Il en parle dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous. Patience Ngalula Mbombo est à la présentation de ce journal. Aucune raison ne peut justifier la rareté du carburant à la pompe dans la ville de Kinshasa et en RDC en général. Les gouvernements congolais réitèrent son engagement pour le remboursement du manque à gagner aux pétroliers. C'est ce qui ressort des entretiens entre le ministre congolais de l'Économie nationale et les opérateurs économiques du secteur pétrolier. C'était ce jeudi 17 octobre 2024. Détail avec Emmanuel Elamenjoa.
La rencontre Daniel Mukokosamba et les pétroliers intervient quelques jours après la baisse du prix du litre de carburant à la pompe. Le prix du litre est passé de 3440 francs à 2990 francs congolais. Ainsi, aucune raison ne peut justifier une quelconque rareté du carburant sur le marché. Monsieur Franck Bozard, président du groupe professionnel des distributeurs de produits pétroliers.
Cette rencontre a permis de nous rassurer pour que nous puissions continuer à travailler main dans la main en vue de l'approvisionnement régulier du pays. Et il n'y a pas de problème de pénurie, comme d'aucuns ont voulu le dire. Il n'y a jamais eu de problème de pénurie. Plutôt, je dirais que c'était une conséquence positive à la suite de la baisse des prix.
Les opérateurs économiques du secteur pétrolier se disent satisfaits des engagements pris par le gouvernement congolais au sujet du manque à gagner.
Nous avons reçu des assurances du gouvernement que tout sera réglé dans les meilleurs délais. Donc, nous sommes plutôt confiants. Et nous aurons des réunions de certification dans les prochains jours. Ce n'est qu'à l'issue de ces réunions que nous connaîtrons les chiffres exacts de manque à gagner. Ça nous réjouit.
Signalons que malgré la baisse du prix de carburant, les prix des autres produits et services restent toujours en hausse, notamment les transports en commun.
Le ministre d'État chargé de l'agriculture et sécurité alimentaire invite toutes les couches sociales à s'impliquer dans le secteur agricole. Il l'a dit hier jeudi 17 octobre à l'occasion du lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025 à l'échangeur de Limété à Kinshasa. Au cours de cette cérémonie, des semences, des tracteurs agricoles et autres engins roulants ont été remis aux différentes provinces du pays. L'objectif est de leur permettre d'appuyer les agriculteurs locaux et couper court à la consommation des produits champêtres venant de l'étranger. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui représentait la première ministre. Reportage de John Chihuahua.
Cette campagne s'inscrit dans l'idée de la revanche du sol sur les sous-sols souhaitée par le chef de l'État. Grégoire Moutaïl Moutombe, ministre d'État chargé de l'agriculture, appelle tout Congolais à faire le champ.
Nous sommes restés très longtemps sans faire les travaux champêtres. Nous mangeons les produits qui viennent de l'étranger. Il est temps de faire la revanche du sol sur le sous-sol prôné par les chefs de l'État. Nous vous demandons aujourd'hui, avec amour, de faire les champs.
Plusieurs matériels et semences ont été remis aux provinces. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières appelle le bénéficiaire à en faire un bon usage. Jacquemain Chabani.
L'agriculture dans votre province, et vous allez à votre tour distribuer selon la politique provinciale de votre gouvernement à une structure. Vous aurez le devoir et l'obligation de vous assurer qu'il est utilisé à bon usage et qu'il est protégé, conservé, et cela pour le bien-être de nos populations. Monsieur le gouverneur.
Outre les officiels, quelques entreprises, des entrepreneurs agricoles et des maraîchers ont pris part à cette cérémonie.
Je le disais au sommaire, installation hier jeudi des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. L'UDPS occupe la présidence des quatre commissions et du Conseil des sages sur les 10 commissions existantes. Le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbay a installé les bureaux des 3 commissions, notamment la commission économique, financière et contrôle budgétaire qui sera dirigée par le député national Guy Mafuta Kabongo. Cette commission a un rôle très important à jouer pendant cette session budgétaire en vue de doter les gouvernements de la République d'un budget conséquent pour lui permettre de faire face à plusieurs besoins d'État, affirme son président. Guy Mafuta Kabongo est au micro de Michel Kifindangoy.
Il suffit de penser à la souffrance que vit la population. Je vois par là les enseignants qui réclament des salaires décents. Je vois par là le défi en termes de route des dessertes agricoles. Je vois également la question de l'insécurité et de l'agression à l'est du pays. Je me dis qu'on n'a pas droit à l'erreur. Et nous, en tant qu'autorité budgétaire, c'est pour nous l'occasion de donner un contenu chiffré à la vision du chef de l'État qui s'est articulé sur 6 axes. Donc le travail a commencé. Nous allons examiner les 2 lois que le gouvernement nous a déposées. Et à la fin, nous ferons des observations pour revenir en plénière pour que le vote s'en suive. Nous allons être assez rigoureux. J'ai vraiment confiance en l'équipe des élus qui font partie de cette commission. Il y a d'éminentes personnalités qui ont une expérience assez avancée en la chose. Et nous-mêmes également, avec un peu plus de volonté, nous pensons faire un travail de qualité. Le temps n'est pas avec nous, mais nous allons nous concentrer pour que le travail soit fait et cela dans les normes.
Direction la province du Sud Kivu, où la coalition congolaise pour la justice transitionnelle vient de sensibiliser les femmes survivantes des massacres des Mwenga en 1999 sur les pratiques de résilience. Des femmes venues de plusieurs coins du territoire des Mwenga ont participé aux cérémonies commémoratives du 25e anniversaire des massacres des Kasika. Activité soutenue du 14 au 17 octobre en perspective de la Journée internationale de la femme rurale. C'est là à Mwenga que des milliers de femmes ont été enterrées vivantes par les rebelles du RCD soutenus par les militaires de l'armée patriotique rwandaise. Jean Kassami pour les reportages.
Le thème principal était axé sur le rôle de chaque structure citoyenne en vue de maintenir en alerte la conscience collective sur le massacre commis contre la population civile. La CCJT avait choisi la Journée internationale de la femme rurale pour tenir ces colloques au chef-lieu du territoire de Mwenga.
Nous avons essayé de réfléchir sur un certain nombre de problèmes qui doivent être pris en charge par un comité mis en place. Et ce comité va essayer de voir comment les femmes du territoire de Mwenga vont nourrir la communauté.
Lors de sa prise de parole, le vicaire de Kamituga a exposé sur l'implication de l'Église dans le processus de lutte pour les droits des femmes enterrées vivantes.
Je suis personnellement marqué par la participation des mamans qui sont venues de très loin. Cela a donné vraiment une bonne image à l'événement que nous sommes en train de célébrer et on peut trouver la justice qu'on est en train de chercher et la réparation.
La présence des Bami Kalenga et Lungangi avec leurs épouses a réconforté leurs administrés qui attendent impatiemment à ce que les droits soient dits pour honorer les victimes et soulager tant soit peu les survivants. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et puis, la chef intérimaire de la composante police MONUSCO, UNPOL, a choisi Beni pour sa toute première sortie depuis sa prise de fonction fin septembre dernier à Goma. Ce jeudi, elle a échangé avec le maire et les responsables de la police de la ville et du territoire de Beni. Les discussions ont eu lieu en présence des responsables locaux de la MONUSCO. L'objectif était de s'imprégner de l'impact des actions de la police MONUSCO dans la protection des civils. Grévis Saloumou pour les détails.
Lors des échanges, les responsables de la police à Beni ont salué l'accompagnement de la MONUSCO en faveur de la PNC dans une zone marquée par l'insécurité. Cet appui s'est traduit par des formations diverses, l'exécution des projets de développement et la dotation en matériel. Le commissaire supérieur principal Jean-Sébastien Kahouma, commandant urbain de la police à Beni, a précisé.
Sans l'appui de nos partenaires, on ne sera pas à mesure de faire ce bon travail. Et c'est pour cela que c'est une visite qui ne fait que nous réconforter. Personne ne peut dire que la MONUSCO est passée tout simplement comme ça. Et les preuves, il y en a beaucoup.
La commissaire intérimaire de la police MONUSCO, général Maïmouna Ouegadro, a pour sa part rassuré les autorités policières de l'engagement continu de la MONUSCO dans la protection des civils. Elle a déclaré.
Nos attentes, c'est vraiment poursuivre cette collaboration, cette détermination et cet engagement à vraiment protéger les populations et à mettre les acquis des différentes formations que nous leur dispensons en pratique.
Ces échanges illustrent une volonté commune de renforcer la coopération entre la PNC et la police de la MONUSCO pour mieux protéger la population de cette région en proie à des défis sécuritaires majeurs. Beni, Grévy Salumou, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, à Goma, quelques dizaines de femmes leaders sont maintenant capacitées dans la prévention et la lutte contre la désinformation. Réunies au sein du collectif des associations féminines pour le développement CAFED, celles-ci ont clôturé ce jeudi une formation de 2 jours sur ces sujets. Une formation qui a été appuyée financièrement par la division de l'information publique de la MONUSCO. Pour la présidente du dit collectif, en ces temps de crise sécuritaire au Nord Kivu, la gestion et diffusion de l'information sont très sensibles, d'où la nécessité d'impliquer la femme dans la sensibilisation contre la désinformation. Isabelle Pendeza l'a dit ici dans cet extrait choisi par Bernard Nyangi.
Il a toujours été dit, mieux vaut prévenir que guérir. Nous sommes dans une période très fragile où le pays traverse un moment très dur de son histoire avec l'agression et c'est par là aussi que l'ennemi passe pour déstabiliser la population. Raison pour laquelle nous avons jugé bon de réaliser cette activité pendant cette période pour nous épargner, surtout nous en tant que femmes, nous épargner de ce fléau qui est la désinformation. Nous savons aussi que nous faisons tous partie de la communauté congolaise et que nous devons fédérer nos efforts ensemble en tant que congolaises pour bouter ce fléau loin de nous. Mais aussi, les conséquences de ces conflits touchent beaucoup plus les femmes par rapport aux autres personnes dans nos communautés. Parmi les conséquences de la désinformation, il y a ce qu'on appelle la polarisation de l'opinion publique. Et aussi, il peut y arriver qu'il y ait une promotion de l'extrémisme violent et surtout les discours qui n'est pas adapté ou soit les discours haineux.
Santé dans ce journal, l'épidémie de choléra est enregistrée dans plusieurs zones de santé du Haut-Katanga. Depuis le début de l'année, plus de 3000 cas ont été enregistrés avec plus de 160 décès. Cependant, dans la zone de santé Lukafu, où sévit cette épidémie, certaines personnes indiquent que cette zone de santé ne bénéficie pas de l'appui du gouvernement dans la lutte contre cette maladie qui a déjà causé mort d'hommes. Allégation rejetée par le ministre de la Santé du Haut-Katanga, Joseph Sambibou Landa, joint par Jean Gandou.
Le choléra sévit de manière endémo-épidémique dans notre province et la province réagit toujours de manière prompte et de manière équitable dans toutes les zones de santé. Il y a une stratégie de prépositionnement des intrants au niveau des bureaux centraux pour intervenir dès l'annonce d'un simple cas. Et ces mêmes intrants sont prépositionnés dans les zones les plus reculées. Pour le cas de Lukaf, 68 cas ont été notifiés depuis la première semaine jusqu'à ce jour avec 6 décès. Les intrants ont été bien livrés et depuis le début de l'année, la province connaît un cumul de 3075 cas avec 168 décès. Les gens qui ont déclaré ne pas avoir reçu l'appui de la province n'ont qu'à motiver leur déclaration. Nous, nous faisons notre part comme gouvernement et l'équipe provinciale intervient vient toujours pour aider toutes les zones de santé de manière équitable.
Autre nouvelle, importance du secteur privé dans la gestion des déchets, actions et solutions. Tel est l'intitulé de la conférence organisée ce mercredi à Kinshasa par la FEC, Fédération des entreprises du Congo et UN Global Compact Network, RDC, sur l'assainissement et les recyclages des déchets. Pour le docteur Passine Doudi, président de la commission environnement, climat et développement durable de la FEC, il faut recourir au système intégré qui prend en compte les spécificités de chaque déchet et utiliser toutes les filières qui travaillent dans ces secteurs. Dans son intervention, Stéphanie Mbombo, experte en cette matière, a noté que les déchets est à la responsabilité de tous les Congolais, du ménage au sommet de l'État. Jeannette Bosingizi, présidente de l'ONG Logos Premier, recommande la sensibilisation des Congolais sur la protection de l'environnement. Jean-Désiré Kanyama.
Les panélistes 4 au total, se sont penchés sur les avantages qui peuvent découler du traitement des déchets en tant que ressources et opportunités d'affaires. Aussi, ils ont examiné plusieurs solutions, notamment avec les recours aux technologies innovantes. Bien plus, il faudra envisager de mettre en action les opérateurs de taille industrielle et de taille moindre, y compris les organisations non gouvernementales qui posent déjà des actes sur terrain. Docteur Passindoudi est le président de la commission environnement à la FEC.
Il nous faut un fonds recyclage qui peut directement soutenir ces actions. Continuer à réfléchir sur notamment les crédits carbone que les biogaz peuvent servir. Mais il y a des déchets solides qui utilisent d'autres approches.
Experte en la matière, Stéphanie Mbombo a interpellé chacun des Congolais à prendre ses responsabilités dans la gestion des déchets.
Comment nous consommons à la maison, comment nous gérons nos déchets? Assainissement au niveau de notre santé, mais surtout le bénéfice avec les crédits carbone.
Plus pratique, la présidente de l'ONG Logos Premier recommande d'aller vers les populations et d'être présent sur terrain. Jeannette Bossingizi.
La sensibilisation dans les salles climatisées n'a pas d'impact. Et nous devons montrer à la population quels sont les méfaits des mauvais gestes qu'ils posent.
Reste que l'État mette la main dans la poche pour que les acquis de cet atelier soient capitalisés, vœux des intervenants de ces secteurs.
Actualité internationale. 7 personnes sont mortes et 6 autres ont été blessées après qu'un kamikaze a fait exploser un engin non identifié dans un café à l'extérieur d'une école de police dans la capitale de la Somalie, Mogadiscio, a déclaré la police jeudi. Selon la police, parmi les victimes se trouvaient des officiers et des civils qui prenaient le thé à l'extérieur de l'Académie générale de police de Kahiyé. Les groupes militants Al-Shabaab liés à Al-Qaïda a revendiqué l'attentat dans un communiqué publié sur les sites web de sa filiale.
L'invité.
Le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Josia Obat, a effectué une visite mardi dernier à Komanda, Tchabi et Bogoro, durant laquelle il a parcouru plusieurs bases de casques bleus dans les territoires d'Irumu. Cette mission a été l'occasion pour lui d'échanger avec le représentant des différentes couches sociales présentes dans ces localités. Que se sont-ils dit et quel était l'objectif principal de cette visite? Josia Obat partage ses réflexions dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
Monsieur le chef de bureau, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de visiter la cité de Komanda, les localités de Tchabi et de Bogoro. Quel était l'objectif de cette mission et qu'est-ce qu'on peut en savoir plus?
Comme vous le savez, je viens d'arriver ici à Bunia comme le chef de bureau. Comme ça, je me suis dit d'aller visiter là où on a les bases militaires et voir le travail qu'ils sont en train de faire là-bas et aussi faire les contacts avec les couches de société différentes qui se trouvent dans toutes les couches qu'on a visitées.
Alors, vous avez rencontré les représentants des différentes couches sociales. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos échanges?
Oui, c'était très, très important. D'abord, on a commencé à Komanda, là où j'ai rencontré les FADC, les représentants des jeunes, les représentants des groupes de femmes et aussi quelques leaders, les chefs des chefferies. On a échangé sur les manières, comment on peut augmenter les patrouilles, le travail qui ça se fait là-bas entre casque bleu et les FADC dans les zones. Comme vous le savez, dans les zones de Mambasa, nous n'avons pas les présences. Mais c'est très, très important pour que les FADC et la MONUSCO travaillent aussi dans les Kouela. Mambasa fait partie de l'Ituri et vous savez que la MONUSCO travaille un peu partout dans les provinces. Comme ça, c'était pour discuter avec eux pour voir comment le travail ça peut se faire de manière ordonnée et aussi de manière coordonnée et aussi en étroite collaboration avec la population.
Quel est le besoin aujourd'hui pour que la MONUSCO soit présente à Mambasa?
Quand on regarde aujourd'hui, on a les groupes armés qui dérangent ici. On a les groupes armés locaux, mais aussi on a les groupes armés étrangers. Dans le cas d'espèce, on a les ADF. Et nous, on a vu comme contenu ou bien à cause des opérations qui sont menées au niveau de Nord Kivu là-bas, les ADF sont en train d'échapper ici, en Ituri. Et Mambasa, c'est une zone qui est affectée par ce phénomène des ADF. Comme ça, la MONUSCO est là pour travailler avec les FADC pour voir de quelle manière il peut confronter les menaces de ce groupe ADF. Et bien sûr, ici, il y a aussi d'autres groupes armés qui sont là, locaux, que la MONUSCO est en train de travailler avec les autorités. Dans le cadre aussi des dialogues, on a le programme de PDDRCS qui est aussi en marche et la MONUSCO porte son soutien dans tous les programmes là.
Et comment vous évaluez la collaboration entre les casques bleus de la MONUSCO, les FARDC, mais aussi UPDF dans le cadre de la traque des ADF dans cette région?
Je suis très content parce que partout où j'ai passé, les témoignages qui étaient faits par les FARDC avec les populations, avec les leaders qui sont là, ils ont expliqué comme quoi ils ont les très très bonnes collaborations. Ils travaillent ensemble, il y a les échanges qui ça s'est fait. Et j'ai rencontré les officiers des FADC qui sont venus me rencontrer. Et j'ai l'impression que la collaboration est très très bonne. J'étais aussi d'ailleurs la semaine passée dans les réunions du comité de sécurité avec le gouverneur, avec tous les membres du conseil de sécurité. Et on est d'accord que c'est nécessaire pour qu'on conjugue nos efforts pour travailler ensemble pour confronter les problèmes d'insécurité dans les provinces.
Alors avant de finir, différentes couches que vous avez rencontrées, des couches de population civile, ont exprimé aussi les besoins d'un appui dans le cadre des projets de développement. Qu'est-ce que vous en dites?
Comme vous le savez, la MONUSCO, ce n'est pas une agence pour le développement. Mais malgré ça, nous avons le projet d'impact rapide que nous sommes en train de faire passer par là. On érige lampadaire qui réduit sensiblement les cas d'insécurité. Et aussi, dans le même cas, nous réhabilitons les ponts, les hôpitaux et beaucoup, beaucoup de choses. On a le programme de dialogue que nous faisons ensemble. Et on va continuer dans le sens-là. Il y a beaucoup, beaucoup de projets. À Komanda, on a construit un centre de formation. Les jeunes sont en train de se mettre là-bas chaque jour pour travailler ensemble. Nous sommes en train de réhabiliter ou bien construire une loco pour les polices, bien c'est à Tchabi, et la MONUSCO va continuer avec les petits projets comme ça.
Alors pour terminer, quels sont les challenges ou quels sont les défis auxquels fait face la MONUSCO dans le cadre de l'exécution de son mandat en Ituri?
En tout cas, dans les provinces de l'Ituri, on a les très très bonnes collaborations avec les autorités, avec le gouverneur et son équipe. Nous travaillons en très très étroite collaboration. Même avec les populations, on est en étroite collaboration. Nous travaillons très bien. On a les libertés de mouvement partout, sauf à Mombasa, là où il y a un peu de problèmes. Mais on espère qu'on va résoudre ce problème-là. On va parler avec la population pour l'expliquer exactement quelle est la stratégie et qu'est-ce qu'on est en train de faire là-bas pour qu'on puisse rétablir l'ordre là-bas.
José Obat, merci.
Merci beaucoup.
Par ici, nous bouclons cette édition d'information de la mi-journée. Jacques-Yves Moliman et Alain Irung Mouchinge l'ont préparé pour vous à la mise en onde de Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci de votre attention.